salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, du nord au sud, et aujourd'hui, se brûler les ailes au pays du soleil levant. Bienvenue en Corée du Sud, où la religion la mieux partagée, peut-être le travail. Un ancien cadre dirigeant français chez un géant coréen de l'électronique raconte 8 ans de travail acharné pour gagner des parts de marché. Bonjour Eric Surdège.
Bonjour.
Vous racontez cette expérience dans un livre, Ils sont fous ces Coréens. 16 heures de travail, 6 jours sur 7, stage de motivation, obsession de la hiérarchie, des chiffres et du temps aussi, découpage, minutage de toutes les tâches, y compris pour les cadres. Mais le plus intéressant, c'est que votre expérience permet de mieux comprendre les forces et les faiblesses de la culture coréenne, la culture économique coréenne, confucéenne, fondée sur le dépassement de soi. Bien évidemment, les auditeurs, si vous nous écoutez, vous pouvez questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71. Alors, comme vous n'avez pas, en fait, vraiment vécu en Corée du Sud, hein, Eric Surdège, vous avez travaillé pour la filiale française d'un géant de l'électronique, LG, mais vous alliez très souvent, tous les mois, en Corée du Sud. Et d'ailleurs, vous reconnaissez ne pas tout à fait connaître la culture coréenne, si ce n'est par les méthodes de travail. C'est ouais. Ça, hein ?
J'ai eu le privilège d'aller en Corée tous les mois, une semaine. Donc, on est en immersion dans un cadre absolu de travail. Mais c'est vrai que toute la vie sociale, associative ou culturelle, il faut vraiment sortir de ce monde du travail pour pouvoir s'en imprégner.
C'est pourquoi nous sommes également en ligne avec Eric Bidet, spécialiste de la société coréenne. Bonjour Eric Bidet.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur, responsable du Master Économie Sociale à l'Université du Mans. Et vous avez enseigné dans plusieurs universités coréennes pendant une douzaine d'années. Vous avez travaillé plus spécifiquement sur le modèle de développement socio-économique de la Corée du Sud, un pays qui, rappelons-le, était l'un des plus pauvres de la planète au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les voisins, je vous rappelle le numéro de téléphone. Soit vous postez des messages, des questions sur les réseaux sociaux, sinon vous appelez, le standard est toujours ouvert. 33 1 84 22 60 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Eric Surdège, je le disais, aussi incroyable que cela puisse paraître, votre histoire, votre expérience, ces 8 années chez LG, donc leader mondial de l'électronique de loisirs, votre histoire se passe en France, donc dans une entreprise domiciliée en France, mais une entreprise coréenne. Et pourtant, on a le sentiment que vous étiez bien en permanence en Corée du Sud.
C'est effectivement à 30 km de Paris, parce que toutes les filiales doivent être installées à moins de 10 minutes en voiture de l'aéroport international, dans le monde entier. Et toutes les filiales sont organisées avec un système nerveux autour d'une organisation coréenne qui est strictement dupliquée partout dans les pays, quelle que soit la culture du pays. Et effectivement, quand on rentre dans cette entreprise avec ses systèmes culturels, la cantine culturelle, les obligations, les reportings, tout écrit en coréen, y compris dans les toilettes, effectivement, vous rentrez dans un monde où vous pourriez être en Corée.
Mais quelle était la proportion de Coréens, de Français dans cette entreprise que j'ai quitté il y a 3 ans, donc c'est récent. Hein.
Voilà, c'est tout à fait récent. Sur la filiale opérationnelle, il y avait environ 450 personnes et on va dire une centaine de Coréens. Sur ces 100 Coréens, vous aviez une quinzaine qui étaient des expatriés pour des périodes de 4 ans strictes, parce qu'après ils y retournent en Corée pour être, on va dire, remis aux normes avant d'être réenvoyés sur un autre endroit de la planète. Et vous aviez 80 environ Coréens qui, eux, étaient plus intégrés, mariés ou mariés, eux, avec des Français ou Françaises, et qui connaissaient les deux cultures, mais étaient d'abord Coréens.
Donc il fallait parler coréen pour vous en tant que cadre français?
Il a fallu parler coréen les 2 dernières années, parce que le chairman, le numéro 1 mondial, quand il a repris les rênes du grand groupe, a décidé que le coréen, qu'il fallait revenir aux valeurs essentielles du groupe. Donc la langue est devenue lue par l'écrit obligatoire. Mmh. Et comme j'étais au niveau des exécutifs devenu le seul non-coréen, j'ai eu beaucoup de mal pendant la première année et j'étais obligé de prendre une interprète en permanence pour pouvoir suivre l'actualité. l'humanité et les nombreux messages.
Et les finesses de la langue. Au début des années 2000, finalement, qu'est-ce qui pouvait exalter un cadre dirigeant français pour intégrer un groupe coréen ?
Effectivement, quand je travaillais à l'international dans un groupe japonais, j'avais un poste relativement visible et relativement confortable en termes d'autonomie, mais j'avais dans ce milieu du consumer et de l'industrie high-tech, il était assez facile d'anticiper dans les années 2000 que les Japonais allaient perdre la main en termes de leadership dans les années 2010, qui malheureusement est arrivé, y compris aux plus grands. Donc les Coréens étaient une industrie plus naissante qui avait bâti leur business model, entre autres, sur l'innovation et la capacité d'exécution. Donc, même si les chiffres à l'époque et les marques étaient peu connus ou peu importants, j'avais anticipé à la fois le fait qu'ils seraient des acteurs importants dans les années 2010-2020, et à la fois, il y avait une sorte de défi personnel, parce que 100% des cadres ou relations m'avaient dit « Il est impossible de travailler plus de 2 ans avec eux quand on est non-coréen. »
Et vous êtes resté 8 ans. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait. Mais évidemment, l'obsession, mais ça toutes les entreprises du monde, c'est d'obtenir de la croissance. Et vous écrivez, cette obsession, elle dépassait tout ce qu'un esprit occidental peut imaginer, même lorsque moi, qui avais l'habitude de travailler avec des Asiatiques, cette obsession tenait en quelques mots. Vous écrivez, les Coréens mobilisent toutes les ressources humaines nécessaires, quitte à dépasser les limites du possible. D'ailleurs, il n'existe aucune limite au possible. Croire à l'impossible, c'est ça.
C'est tout à fait. Quand on a une mentalité européenne, voire anglo-saxonne, en termes d'objectifs, on a une approche de marché, on a une approche assez pragmatique, rationnelle sur des historiques. Dans une entreprise coréenne, ils partent souvent de pas beaucoup ou de peu, donc on vous donne des objectifs qui sont déments par rapport parfois à la taille des marchés, et votre hiérarchie vous demande qu'est-ce qu'il vous faut pour être en situation de les atteindre. Ça peut vouloir dire aider le marché à devenir plus gros, à grossir, donc trouver des consommateurs qui n'étaient pas intéressés par un produit ou une solution qui d'un seul coup vont être intéressés. Ça va être écraser, entre guillemets, ou dominer la concurrence ou les concurrences, élargir la distribution des produits, et vous soumettez un plan d'action extrêmement précis qui fait l'objet d'allers-retours. Et quand ce plan, avec des moyens, vous demandez des moyens qui peuvent être là aussi extrêmes, mais si tout est accepté par rapport à l'objectif que vous n'avez pas le droit de ne pas accepter, eh bien, vous mettez en situation de réussir. Si vous réussissez, vous êtes un héros. Si vous ne réussissez pas, vous avez de grandes probabilités de terminer l'aventure.
Oui, terminer l'aventure en 1 heure, hein, en général. Les licenciements sont assez rapides. Travailler dans une entreprise coréenne, c'est, alors vous dites, on met les moyens, c'est-à-dire déjeuner, dîner au bureau. À quoi ressemble une journée ou une semaine, type, plutôt ?
Les journées sont assez stéréotypées. En Europe, la population coréenne vient relativement tôt au bureau, mais là-dessus, en tant que Français ou Européens, c'est vers 8h, 8h15. À la différence des Européens, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite en motricité active sur le travail.
Motricité active, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler du match de foot de la veille ou refaire le problème de la circulation ou le problème de la crèche avec les enfants. Les personnes arrivent, se saluent, en se saluant de la tête pour des problèmes d'hygiène comme la plupart des personnes en Asie, et se mettent à leur travail. Comme vous le savez, la Corée étant plus à l'est, à 7 ou 8 heures d'avance en termes d'horaire sur l'Europe en général, donc ils sont inondés de mails, ils rentrent dans un mode actif, des réunions très très courtes. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous...
20 minutes.
Voilà, une réunion est faite pour valider des process qui ont été...
Tout le monde a préparé exactement ce qu'il allait dire à la réunion, parce qu'il est minuté, c'est ça ?
Exactement. Vous ne pouvez pas venir dans une réunion les mains dans les poches sans avoir préparé, ce qui est une spécialité quand même parfois assez générale dans nos entreprises plutôt occidentales, où effectivement, pendant une réunion, il y a une tendance à préparer la réunion d'après. Non, là, c'est impossible. Les réunions sont faites pour décider. Si une réunion, on ne décide pas, il y a une autre réunion qui est établie 2 jours après pour... se mettre en situation de décider.
Donc on arrive tôt, à quelle heure se termine la journée ?
Alors, à midi, tout le monde s'arrête. De midi à 12h40, c'est la pause déjeuner dans une cantine coréenne, où là, on ne discute que des problèmes de travail, factuels, chiffres, mesurables. À 12h40 exactement, tout le monde retravaille jusqu'à 19h. À 19h, vous avez une nouvelle pause de 40 minutes, dîner,
Et on est toujours au bureau, là, dans l'entreprise sud-coréenne, dans la région parisienne, voilà, ce que vous décrivez.
À côté de l'aéroport international Charles de Gaulle.
Oui.
Voilà, absolument. Et puis, à 19h40, tout le monde retourne travailler, et les premiers s'en vont à 21h30, voire plus tard.
Français y compris, là.
Les cadres français, oui.
Ouais. On est en ligne, donc, avec Éric Bidet, spécialiste de la Corée du Sud. Éric Bidet, expliquez-nous, comment comprendre les origines de... Est-ce qu'on peut parler d'une religion du travail, d'ailleurs, en Corée du Sud, de ce que nous décrit Éric Surdège, à tel point que cela s'exporte... On a le sentiment presque facilement dans un autre territoire, pour le cas de LG qui est implanté en France.
Oui, alors tout d'abord, ce que je voulais juste apporter une petite, un petit complément, peut-être une petite nuance à ce que vient de dire Éric Surdège. Je reconnais effectivement des éléments que moi aussi j'ai perçus là-bas, une espèce de vie de famille qui se met en place au sein de l'entreprise, qui mobilise le travailleur de son arrivée très tôt le matin jusqu'à une heure assez tardive souvent. Ce que je voulais quand même apporter comme nuance, c'est que si on regarde un petit peu les statistiques internationales sur la productivité, par exemple, ces stats-là, elles montrent que la productivité en Corée est particulièrement basse par rapport aux autres pays de l'OCDE.
Les études de l'OCDE parlent de productivité horaire, c'est-à-dire qu'en une heure, on produit moins qu'ailleurs, que la moyenne des... Ça, c'est beaucoup plus faible que les
pays de l'OCDE.
Voilà, c'est ça. Parmi les plus faibles des pays développés.
Ce qui montre qu'il faut en fait distinguer la présence au lieu de travail et puis le fait de travailler effectivement, d'être productif. Les travailleurs coréens sont très présents. Très,
oui, mais en même temps, attendez, on ne peut pas être sur Facebook sur son poste de travail, non?
Éric Surdège. Mais c'est checké.
C'est ça.
Vérifié par l'entreprise, donc à un certain moment, on peut vite recevoir des rappels à l'ordre.
Mmh. Éric Bidet, je vous en prie.
On n'est pas forcément sur Facebook, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas une immersion permanente dans l'activité de travail, dans l'activité de production de tous les instants où on est dans l'entreprise.
Mmh.
Et puis, par ailleurs, ce que je voulais aussi apporter comme petite nuance, c'est que l'expérience que relate Éric Surdège, c'est celle dans un conglomérat coréen, sud-coréen, qui représente une partie seulement du monde du travail coréen. Le monde du travail coréen est notamment caractérisé par beaucoup de travail qui sont des travaux précaires, des statuts précaires.
Mmh.
Et ces travailleurs-là travaillent dans des conditions tout à fait différentes.
C'est ça. Là, on est bien dans un mode de entreprise internationale, économie formelle, etc. On est bien d'accord.
C'est-à-dire si, en complément également, on peut dire la Corée du Sud a quatre énormes chaebol qui sont
conglomérats,
ouais. Voilà. Hyundai, qu'on connaît un peu en Europe, Samsung, LG et un degré moins de Daewoo. L'ensemble de ces quatre conglomérats représentent plus de 60% de la productivité et du produit intérieur brut du pays. Donc c'est quand même et à des multi-activités dans des domaines immobiliers, internet, distribution, loisirs, bancaires, internet. Donc quand à l'intérieur de ces conglomérats, et le livre a été vu par des cadres coréens, d'autres qui n'appartiennent pas au groupe LG, qui ont confirmé effectivement que ça se passait pareil, globalement ça fonctionne à peu près comme cette vie de famille d'entreprise ultra élargie. Mais en dehors de ça, effectivement, il y a toute l'autre activité que je connais moins.
Éric Bidet,
je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que ces conglomérats représentent une part très significative de la production coréenne. En revanche, et là je vais faire un peu l'universitaire, je vais encore vous renvoyer à des stats. En revanche, si on regarde les statistiques concernant les statuts des travailleurs en Corée, ce qui apparaît et qui distingue très nettement la Corée, notamment des pays européens, c'est qu'on a beaucoup de non-salariés d'abord, qui sont ultra minoritaires chez nous. Et puis parmi les salariés, on a beaucoup de statuts précaires. Ce que j'appelle les statuts précaires, c'est ce que l'administration coréenne appelle les travailleurs irréguliers, qui renvoient à la fois à ce qu'on appellerait chez nous des intérimaires ou des CDD.
Oui. Est-ce que néanmoins c'est le pays, vous diriez, Éric Bidet, qui va le plus loin dans, parce qu'évidemment on pense au Japon, on pense à la Chine, qui va le plus loin dans l'accomplissement de la valeur travail dès l'enfance?
C'est probablement un des pays qui va le plus loin, et c'est probablement en lien avec le fait que le confucianisme est une philosophie, une religion, c'est difficile de choisir le bon terme, qui est particulièrement influent dans la société coréenne.
Aujourd'hui, quel est le temps de travail légal en Corée, pour savoir de quoi on parle? Parce que là, vous nous parlez, Eric Surdège, de semaines de, qui font quoi, largement 70 heures.
Oui. Hein,
le temps de travail légal, c'est quoi aujourd'hui en Corée du Sud, Eric Bidet?
Le temps de travail légal hebdomadaire, c'est 40 heures. Hein, donc on n'est pas très éloigné du temps de travail légal hebdomadaire chez nous. Par contre, le droit du travail est beaucoup plus souple sur la possibilité de faire des heures supplémentaires d'abord, puisque 12 heures supplémentaires par semaine sont autorisées, sans compter les week-ends. On peut ajouter de nouveau 16 heures de travail le week-end.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on travaille 6 jours sur 7.
Oui.
Hein? Oui.
Très facilement.
C'est tout à fait vrai. Une petite anecdote qui ne concerne pas un des conglomérats, mais je me trouvais en Corée au mois de janvier, qui est toujours très très froid à Séoul, et ce mois de janvier était particulièrement froid, il faisait jusqu'à moins 25 la nuit, et le gouvernement avait demandé à tous les fonctionnaires, à l'administration, de quitter les lieux très tôt, en respectant les heures de travail, pour éviter de chauffer. Et en fait, le gouvernement se plaignait parce que c'était pas du tout respecté, que tous les fonctionnaires travaillaient beaucoup trop et que les locaux étaient toujours chauffés.
Je vous lis un message de une réaction de d'un auditeur Moussa qui est à Kaolack au Sénégal. Il nous dit dans les pays sous-développés, je pense qu'on devrait prendre exemple sur ces pays asiatiques pour émerger, pour développer un pays, le sacrifice doit être général. Mais j'ai une question. Vous avez dit que l'employé n'a pas de vie privée, je ne comprends pas. Pourrais-je avoir des éclaircissements là-dessus? Voilà, réaction et bien sûr on vous répond Moussa dans quelques secondes.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Alors d'abord sur la réaction de Moussa, peut-être Eric Surdège, sur le côté, le sacrifice doit être général. En fait, travailler pour l'entreprise, se sacrifier pour l'entreprise, c'est aussi se sacrifier pour son propre pays.
Voilà, c'est se sacrifier. Faut bien se remettre dans la configuration des Coréens du Sud qui ont eu une période très compliquée où au sortir de la guerre, ils étaient vraiment entre guillemets un peu le second rang par rapport aux maîtres japonais. Ils ont eu la crise des années 70-80 et après ils sont mis en posture guerrière en disant on ne peut s'en sortir qu'à l'international, et ils sont presque devenus consanguins dans leur fonctionnement, dans leur activité, dans leur vision. Donc à partir de là, ils ont mis des modes de fonctionnement où les leaders et plutôt des hommes se sont sentis investis d'une mission de sortir et de tirer le pays à l'extérieur et de le construire sur des projets fantastiques. Donc ça voulait dire que le sacrifice familial était obligatoirement induit parce que ça impliquait une vie pour le travail. Mmh. Et toutes les entreprises, y compris ces grands conglomérats, essayent d'organiser une vie de famille autour du travail en expliquant que c'est important, qu'ils s'occupent des enfants, il y a des crèches dans les écoles, c'est assez bien fait, mais tout est autour de la dimension travail. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'un cadre coréen, quel que soit son niveau, est le maître, entre guillemets, dans sa fonction au travail, mais quand il rentre dans son foyer, il détache tout à son épouse qui, quel que soit son niveau d'études ou etc., gère l'intégralité de la finance, de l'éducation et de la vie du foyer. Mmh.
Proportion de femmes aujourd'hui, Eric Bidet, les femmes cadres par exemple dans les entreprises en Corée du Sud, en quelques secondes avant que nous rendions l'antenne pour le flash.
Proportion très basse, j'ai pas le chiffre en tête, mais extrêmement basse.
Ouais. Et du coup aussi, ça peut être paradoxal, mais ça l'est pas, indice de fécondité aussi, l'un des plus faibles au monde, 1,2 enfants par femme.
Oui, l'un des plus faibles au monde. C'est un des gros problèmes du modèle coréen, c'est l'incapacité à réaliser cette conciliation entre le travail et l'éducation des enfants, qui fait que la majorité des femmes sont obligées de renoncer à une vie professionnelle à partir du moment où elles ont des enfants.
Ça veut dire plusieurs générations d'enfants qui ont grandi finalement sans père. Ils le voient éventuellement le dimanche. C'est ça, Eric Surdège?
C'est un peu un des paradoxes de la culture coréenne qui valorise beaucoup la famille. Et c'est vrai qu'on peut le constater de différentes façons, mais qui en même temps sacrifie un peu la vie de famille.
On va en parler en deuxième partie d'émission. Hein. Eric Surdège et Eric Bidet, les Sud-Coréens au travail. Aujourd'hui, le sujet fait quand même débat. En tout cas, c'est l'objet d'une série télévisée. Notre correspondant à Séoul nous en parle dans 3 minutes, juste après le flash. 7 milliards de voisins. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes sur RFI bien sûr. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, les Coréens au travail. Aujourd'hui, comprendre les valeurs, les méthodes des grandes entreprises à la lumière de votre histoire, Éric Surdège. 8 ans passés dans un grand groupe LG, pour ne pas le nommer, puisqu'il est nommé presque à toutes les pages dans le livre d'ailleurs. Vous êtes entré dans cette filiale française du groupe d'électronique LG. Donc vous y avez passé 8 ans, vous êtes entré comme directeur général, vous avez terminé comme président de la filiale. Donc vous étiez le premier étranger à faire partie de ce fameux groupe des 400, hein, c'est ça.
Voilà, ces conglomérats ont de multi-activités. LG intervient dans le pétrole, dans la chimie, dans la médecine, dans l'internet et dans l'électronique. Et l'ensemble de ce groupe qui est colossal, qui fait plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, a 400 personnes qui sont les grands dirigeants, les imams qui ont droit, entre guillemets, de tout et qui se réunissent.
Il y a certains stages de formatage d'ailleurs en Corée du Sud dont vous nous parlerez tout à l'heure. Nous sommes également en ligne avec un spécialiste de la société coréenne universitaire, Université du Mans, Eric Bidet, qui est au téléphone. Et puis, notre correspondant à Séoul nous a rejoint. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors, il y a en ce moment, chez vous, en Corée, un feuilleton télévisé qui fait un véritable carton depuis quelques mois sur la vie en entreprise. Ça s'appelle, alors je préfère que vous le disiez parce que vous prononcerez mieux que moi le titre de ce feuilleton en coréen.
C'est Missing.
C'est ça, une vie incomplète hein, en français. Et c'est la première fois que l'on raconte à la télévision les difficultés de la vie en entreprise.
Oui, en fait, Missing, c'est l'histoire d'un jeune Coréen qui abandonne son rêve d'être joueur de professionnel de Go. Vous savez, ce jeu de stratégie qui se joue à l'aide de pierres noires ou blanches et qui prend à la place le chemin de l'entreprise, une entreprise où il devient stagiaire. Et ces tribulations illustrent très bien toutes les difficultés rencontrées par un employé coréen. L'obligation à rester très tard le soir et à rester devant son bureau tant que le patron n'est pas rentré chez lui. L'obligation aussi d'aller se saouler de temps en temps le soir avec son chef et ses collègues. Il y a même une scène assez amusante qui illustre l'importance de tout faire en groupe quand tous les employés masculins se retrouvent tous au sauna, tous dans le plus simple appareil. Le feuilleton décrit aussi l'ambiance de terreur absolue qui règne quand un grand directeur vient visiter le bureau, les petites trahisons entre collègues pour obtenir de l'avancement, l'importance cruciale des titres, de l'âge, de la hiérarchie. Et puis le feuilleton rappelle aussi la forte discrimination sexuelle et les difficultés pour les jeunes employées féminines de progresser dans un univers très masculin, très influencé par le service militaire et où tous les patrons sont des hommes.
Mais ce feuilleton, Frédéric Ojardias, va aussi à l'encontre de cette image de petite fourmi sans âme, dure à la tâche, parce que les personnages dépeints sont évidemment très, très humains, parce qu'ils souffrent surtout.
Oui, absolument, tout le monde souffre, des stagiaires au patron, et tout le monde vit cette vie incomplète. Le feuilleton décrit très bien cette habitude très coréenne qui consiste à se retrouver sur le toit de l'immeuble entre collègues à des moments de la journée pour partager une cigarette et tenter de se réconforter mutuellement parce que tout le monde est sous tension. L'un des personnages vient tous les jours au bureau avec une lettre de démission dans sa poche, mais ne la donne jamais parce que sa famille a besoin de son salaire. Le feuilleton montre aussi les familles, les enfants qui souffrent de ne jamais voir leurs parents. Et puis l'histoire montre comment ce sont à la fois la culture des entreprises et puis les traditions culturelles confucianistes qui broient les individus. Et le feuilleton rencontre énormément de succès, notamment chez les salariés de 20-30 ans. Les épisodes, c'est devenu le sujet principal de discussion au bureau le lendemain. C'est d'ailleurs l'adaptation télévisée d'une bande dessinée qui s'est vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires, ce qui est vraiment un record en Corée du Sud.
Preuve que les Coréens sont capables d'avoir un vrai recul sur leur relation au travail. Frédéric Ojardias, est-ce que ce succès le signe justement qu'aujourd'hui, ils aspirent à autre chose, notamment les jeunes ?
Oui, très nettement. C'est un phénomène qui a commencé il y a plusieurs années. Les jeunes générations ont vu leurs parents tout sacrifier pour leur entreprise, leur temps libre, leur santé, pour se retrouver mis à la porte à 50 ans, et de plus en plus refusent cette vie-là. Alors bien sûr, le prestige des grands conglomérats, LG, Samsung, Hyundai, auprès des jeunes diplômés reste très fort, mais on voit aussi un nombre croissant de jeunes, qui d'ailleurs ont parfois étudié à l'étranger, qui tentent autre chose. Par exemple, depuis 2 ou 3 ans, on assiste à une véritable effervescence du côté de la création de start-up, avec à leur tête de jeunes qui refusent ce vieux modèle. Comme souvent, la Corée évolue toujours très vite.
Frédéric, je sais que vous avez lu le livre d'Éric Surdège. Alors, est-ce que vous avez reconnu le pays où vous vivez et dans lequel grandit votre enfant, d'ailleurs ?
Oui, alors j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que ce genre de témoignage de l'intérieur, c'est rarissime. Alors, mais si je pouvais me permettre une petite remarque à Eric Surdège, c'est que je trouve qu'en fait, il généralise parfois un peu trop à chaque fois qu'il écrit les Coréens. Parce qu'en fait, de plus en plus de Coréens rejettent ce type de vie, ils refusent de se tuer à la tâche, et beaucoup, je crois, ne se reconnaîtraient pas du tout, ou plus du tout, dans le portrait qu'il fait d'eux.
Eric Surdège, une réaction?
Oui, d'abord merci pour ce tableau que je partage complètement sur l'évolution et la vie en Corée, le sens des valeurs, la place de la famille et de l'enfant, le doute effectivement qu'ont certaines jeunes générations, diplômées ou moins, la rébellion un peu des femmes de moins de 30 ans que vous n'avez pas évoqué, où je pense que c'est un des pays où il y a le plus de divorces maintenant pour les jeunes générations, parce que il y a une sorte de volonté d'émancipation un peu des féminines, la gente féminine. Pour votre remarque que je partage tout à fait. Effectivement, je suis resté dans un monde très, celui des grands conglomérats, celui d'LG, où effectivement, qui était le monde des Coréens, et j'ai fait une association un peu rapide, peut-être, à l'ensemble du monde de la Corée. C'est vrai qu'il y a, ce que j'expliquais il y a quelques instants, une montée en puissance due à l'internationalisation, les réseaux, le goût à la culture, à la western culture, à cette culture occidentale.
Qui arrive via Internet. C'est, voilà. En plus, c'est la génération la plus connectée au monde, la génération sud-coréenne aujourd'hui.
Voilà. Et en complément, pour résumer, quand le livre est sorti, j'ai quand même beaucoup d'amis coréens, certains qui sont très jeunes, et une petite dizaine qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des mails ou des textos et qui m'ont dit, on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est vraiment ça, mais faudra pas nous en vouloir. Si on nous demande, on dira que c'est horrible et que vous n'avez pas à dire ça.
Frédéric Ojardias, merci beaucoup pour votre intervention. Éric Bidet, peut-être une réaction sur la jeune génération. Vous qui êtes un universitaire, vous avez passé de nombreuses années à enseigner dans des universités coréennes.
Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que d'une part, je pense qu'il faut absolument sortir de ce cliché du travailleur coréen fourmi, là, hérité d'une ancienne première ministre française en visite là-bas, notamment. Les jeunes générations sont pas du tout sur ce modèle-là, même si la Corée, c'est un pays où il y a des phénomènes sociaux de très grande ampleur qui sont beaucoup plus fréquents que chez nous, donc qui témoignent un peu d'une forme d'homogénéité sociale. Mais malgré tout, les jeunes générations sont quand même bien différentes du moule qu'on pourrait imaginer. Alors, et qu'on peut entendre souvent ou parfois.
C'est ça. Alors, cliché, mais réalité aussi, parce que ce que vous décrivez, Eric Surdège, bon, les Coréens vous ont dit, c'est vrai. Je voudrais qu'on revienne sur les méthodes de travail dans ces grandes entreprises coréennes que vous avez éprouvées, traversées. Alors, omniprésence de la hiérarchie, Frédéric Ojardias en parlait dans le feuilleton télévisé qui passe et qui est écrit par les Coréens eux-mêmes. C'est la panique à bord quand il y a un grand patron qui vous dit « je vais passer dans les bureaux de la filiale française ».
Voilà, il y a
un mois à l'avance.
C'était un de mes grands points de divergence avec eux, que j'ai souvent essayé de leur expliquer en les impliquant, mais je n'ai jamais réussi à les convaincre. C'est qu'il y a une telle poids de la hiérarchie et de rendre son chef heureux, en tout cas d'être aligné avec six directions, que quand la hiérarchie a la bonne vision, la bonne direction, eh bien c'est parfait, tout fonctionne dans un objectif qui présente l'intérêt de l'entreprise. Mais parfois les visions peuvent être inadaptées à certaines réalités ou tout simplement fausses. Et effectivement, l'entreprise, en toute conscience, a quand même une tendance irrémédiable à obéir au chef au détriment de l'intérêt de l'entreprise. Et parfois, ça peut coûter très cher.
Et paradoxalement, de l'efficacité.
Absolument.
C'est ça, parce qu'on passe énormément de temps à préparer ses visites.
Exactement.
Pendant ce temps, on ne travaille pas à la productivité, d'une certaine
Exactement,
façon.
Exactement, ce qui rejoint tout à fait la remarque d'Éric en début d'émission.
Alors, l'efficacité, vous dites, c'est vraiment une obsession, le découpage des tâches, le séquençage. Alors ça, on peut le comprendre dans une usine, hein, c'est comme ça dans toutes les usines du monde, sur la production industrielle. Mais là, vous parlez de ça pour les cadres?
Absolument. Quelle que soit sa fonction, qu'on soit marketing, en logistique, en comptabilité, tout est découpé par rapport à des objectifs chiffrés qui sont après sous-découpés en objectifs très précis d'atteinte. Par exemple, pour le marketing, c'est c'est l'affinité à la marque dans des tranches d'âge de 20-25 ans, très segmentées sur des zones géographiques précises. Tous les outils de mesure sont mis en place pour permettre de suivre la réalité de ces objectifs, ce qui fait qu'effectivement, à l'arrivée, ben, on coche des cases et on la remplit en verte ou on la coche pas, elle est rouge, ça veut dire qu'on l'a mal faite, ou elle est intermédiaire, elle est orange. Mais il n'y a que trois possibilités. Et qu'on soit au marketing, supply chain pour les temps de livraison, à la comptabilité, pour les encours clients, le recouvrement des factures, des dettes, le paiement, la gestion des stocks, il y a un millimétrage et un quadrillage, un maillage extrêmement fin qui après est quantifié et mesuré. C'est ce qui permet...
Vous écrivez, on calcule même le temps qu'il faut pour décrocher le téléphone.
Absolument. C'est quelqu'un qui laisse sonner plus de 5 fois, c'est considéré comme une faute professionnelle qui peut être grave.
Là, on parle pas d'une plateforme téléphonique.
Ah non, c'est quelqu'un qui est à son bureau, qui est cadre ou non cadre et assimilé, et supposé être à son bureau, il ne doit pas s'absenter de son bureau. Ce qui rejoint en fait le fait beaucoup d'heures pour travailler, parfois faible productivité parce qu'à certains moments on peut pas tout faire, etc. Mais c'est essentiel. Ouais. Et moi, ça m'a toujours surpris en 8 ans, 9 ans, la rapidité avec laquelle les gens décrochent et donnent les réponses au téléphone.
Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il faut les vérifier sur son ordinateur, rappeler immédiatement. Finalement, c'est-à-dire que comment on évalue les cadres? Comment se fait l'avancement d'un cadre?
Alors, c'est un peu comme au judo, si vous voulez. C'est, quand vous êtes cadre, quand vous rentrez dans un grand groupe, vous rentrez cadre, et il y a 7 niveaux de cadre. 7 niveaux. Tous les cadres sont évalués par rapport à leur grille de mesure et d'atteindre des objectifs annuels. À partir de là, en fonction des places qu'il y a pour passer au rang au-dessus, ils sont mesurés entre eux, et vous pouvez avoir très bien 15 sur 20, ce qui globalement représente une très bonne note. S'il n'y a que 5 places et si d'autres ont 16, 17, vous ne passez pas. C'est mesuré arithmétiquement. Et après, vous restez 4 ans dans ce stade-là, et vous avez droit à, si vous avez bien rempli toutes vos grilles et vos atteintes d'objectifs chaque année, vous avez droit à entrer en compétition pour repasser au stade du dessus, et vous rentrez en compétition avec vos collègues qui font les mêmes travaux que vous dans le pays ou dans les autres pays, voire dans le monde entier. Et c'est drivé par un service des relations humaines qui est extrêmement précis, qui donne des informations toutes les semaines, et j'y pensais quand vous parliez tout à l'heure, même à la crèche, même en l'école primaire, les enfants sont ultra mesurés, classés et notés.
Il y a des burn-out, il y a des épuisements.
Beaucoup,
que vous avez vécu autour de vous.
Beaucoup, parce qu'effectivement, à certains moments, c'est ce qui explique très bien votre correspondant à Séoul, c'est qu'à certains moments, les gens craquent, et certains moments, nul n'est tenu à l'impossible.
Alors, il y a un de vos collaborateurs dans la région parisienne qui est hospitalisé d'urgence, vous le faites changer d'ailleurs d'hôpital, enfin, et ses collègues attendent dans la clinique jusqu'à 2h du matin le résultat de l'opération pour être sûr qu'il aille bien, etc. Grande humanité, et en même temps, la première question qu'il pose au chirurgien qui annonce que oui, ça y est, il va s'en tirer, c'est mais quand est-ce qu'il va pouvoir recommencer à travailler ?
C'est une image que je garderai toute ma vie en tête, parce que dans un hôpital de la banlieue parisienne, 2h30 du matin en semaine, c'est assez triste comme ambiance. Et effectivement, tous ces fidèles coréens qui étaient là au poste, tous, et quand le docteur est sorti de la salle d'opération, moi qui jouais le rôle intermédiaire de traducteur, avoir à traduire cette première question, c'était hors norme pour moi. C'était juste...
Tête du chirurgien, évidemment.
Oui, effectivement, aussi.
Mais en même temps, vous dites, c'est le signe pour un coréen. Poser cette question-là pour un patient qui vient à peine de s'en sortir, c'est le signe que s'il recommence à travailler, tout va bien pour lui, finalement.
Puisque c'est sa vie.
C'est ça. C'est pas une question déshumanisée.
Absolument. Sa vie est organisée autour de l'entreprise qui assure l'intégralité de ses besoins en tout genre. Et effectivement, le fait qu'il puisse remonter effectivement à son poste et refonctionner est le premier enjeu pour les Coréens autour de lui.
Agassi, 난 순결한 지영씨 이리 와봐요 귀요미 네 남자친구인지 몸이 너 마치 다 마치 내 이상형 속에 미소 김태기 와기 미소 Oh my god 전지현 YC
so serious. Get your crayon. Get your crayon. Get your cray. Get your crayon. Get your crayon. Get your crayon. Get your cray. Get your why so serious. Black, 내 카드는 black, 무한대, 또 싹 긁어봐라. 이 노랜 crack, 무한괴, 또 확 돌려봐라. 감 떨어진 분들께, 난 한국 우감나무. 콧대 높은 분들께, 기죽지 않는 강사고. 어중이가 적중이가 별일 없이 crayon. 잘 나갔어, 막나니까 차별 없이 cool. 하나, 둘, 3, 4. 왔다, 가자, 놀이, go. 차분하게, slow it down. 침착하면 좀 더 빠르게 달려나서.
Voilà un petit aperçu de la scène coréenne G-Dragon. La chanson s'appelle Crayon en français. Je vous lis le message d'un internaute qui a posté il y a quelques minutes, un internaute togolais, Yabouri. Je viens de passer 3 ans en Corée du Sud. Il et elle sont très braves, très humbles, vertueux et pensent collectif. Donc il est tout à fait admiratif. Éducation, travail performant, refus de toute colonisation au quotidien. Je ne sais pas bien à quoi il fait allusion. Ils ont de fortes chances d'être toujours parmi les meilleurs. Peut-être un commentaire d'Éric Bidet, spécialiste de la société coréenne et du développement économique. Aujourd'hui, où en est la Corée du Sud, justement, pour être la meilleure?
Aujourd'hui, la Corée du Sud, pour vous donner par exemple un indicateur, celui du développement humain du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, la Corée, selon cet indicateur, est classée devant la France, par exemple. Le développement coréen, de ce point de vue-là, on peut difficilement le remettre en question. Ce que je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Eric Surdej tout à l'heure, sans contester nullement son témoignage. Je voulais redire un petit peu combien il était pas facile et en même temps assez tentant, dans la mesure où les conglomérats sont tellement importants en Corée, de généraliser à partir de l'exemple des conglomérats et de l'exemple d'un conglomérat le monde du travail coréen. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup de travailleurs coréens ne travaillent pas dans ces conglomérats. Ces conglomérats,
oui, c'est vrai qu'ils... Vous avez raison, vous l'avez dit. Néanmoins, c'est quand même un modèle omniprésent. Mais effectivement, vous l'avez dit, de nombreux Coréens sont des travailleurs précaires, etc. Bien sûr.
On a un petit peu tendance à identifier le monde du travail coréen à ce modèle-là uniquement. Et ça, c'est un petit peu dangereux, à mon avis. Ça donne pas une image précise de ce qu'est le monde du travail en Corée. Il y a des éléments communs, il y a ce sens du collectif qu'on va retrouver effectivement assez systématiquement. Mais les conditions de travail dans les conglomérats sont à la fois très confortables par rapport à beaucoup d'autres situations de travail, et puis aussi à d'autres égards très exigeantes.
Très confortable parce que le salaire tombe effectivement tous les mois.
Parce que les salaires sont élevés, parce que les avantages qui accompagnent le salaire sont nombreux.
Ouais. Je vous interrogeais en fait il y a une minute, Eric Bidet, sur l'essoufflement, mais surtout sur l'essoufflement économique finalement, parce qu'aujourd'hui on a une société qui produit des travailleurs extrêmement qualifiés. 70% des lycéens intègrent une université, d'ailleurs avec de grands sacrifices financiers de la part des familles, parce que le très haut niveau d'éducation, la Corée du Sud caracole en tête des classements sur la qualité de son éducation et sur ce que savent les jeunes coréens, mais néanmoins au prix d'un financement très actif de la part des familles, avec des petits cours supplémentaires le soir qui se terminent très tard. Là aussi, on rejoint les emplois du temps déments. Mais néanmoins, aujourd'hui, on parle d'un essoufflement économique de la Corée du Sud. Alors, certes, on a le modèle Samsung, la réussite éclatante de Samsung, le grand concurrent d'Apple, notamment sur ce qui nous concerne tous, les smartphones. Mais sinon, finalement, est-ce que...
Donc on a la réussite éclatante, effectivement, de quelques acteurs qui sont devenus des acteurs majeurs sur la scène mondiale, comme Samsung, comme LG, et puis qui masquent un petit peu des difficultés, effectivement, de d'autres intervenants en Corée, et ça se traduit notamment par un chômage, non pas officiel, qui reste relativement bas, mais des études...
Moins de 5%, c'est ça, 4%.
Entre 3 et 3,5 depuis quelques années. Mais le chômage réel et puis le retrait du marché du travail, surtout d'une partie importante de la population, est quelque chose qui est assez préoccupant. Et on en revient là à la question de l'insertion professionnelle des femmes, notamment, qui se retire massivement du marché du travail. Donc il y a une forme effectivement d'essoufflement. La Corée, elle est comme tous les pays, elle est sujette à la concurrence de la Chine et d'autres acteurs asiatiques en particulier. Qui affaiblit un peu ces bases traditionnelles de développement.
Éric Surdège, alors on vous surnommait, c'est ce que vous racontez dans votre livre, on vous surnommait, les cadres coréens, vous surnommez le half Korean. C'est-à-dire que quand même, vous aviez fait du chemin culturellement. Mais il y a deux choses dont vous ne parlez jamais dans votre livre. D'abord, votre vie privée, parce que on a l'impression que vous avez passé 8 ans seul avec un frigo vide. Or, vous dites de temps en temps mon épouse, alors on sait pas très bien comment ça s'est passé. Et puis l'argent. Vous êtes resté pour ça ?
Oh non, parce que d'abord la vie privée, effectivement, elle est assez minimaliste. Donc bon, il faut engager, expliquer à ma famille, en l'occurrence, j'avais encore 2 enfants à la maison, pourquoi j'étais très peu là. Et parfois, sur une semaine, en rentrant tard et en partant tôt, on ne les voit pas du tout. Et mon épouse, qui s'occupait entre autres de l'éducation des enfants, mais qui a eu été cadre dirigeant, comprenait jusqu'à un certain niveau l'engagement, mais au-delà d'un certain niveau, on ne peut pas le comprendre quand on ne le vit pas. Donc il y avait un respect, mais une certaine difficulté à compréhension. Pour l'argent, en tant que cadre supérieur, on est très
supérieur, directeur général et président de la filiale.
On est très bien rémunéré dans le cadre par rapport aux salaires normaux appliqués en Europe ou en France, mais il n'y a aucune stock option, aucun avantage particulier en dehors des salaires.
Comment a été reçu le livre par les Coréens, ceux qui peuvent le lire en français du moins, parce qu'il n'est pas traduit pour le moment?
Voilà, alors ça a été un peu une surprise pour moi, c'est-à-dire que les Coréens que...
Enfin, je parle de ceux de LG, là,
LG. Ouais. Ceux de LG l'ont reçu, c'est assez intéressant pour moi, parce que
ils vous ont dit, tu craches dans la soupe?
Non, en fait, ils ont dit qu'il y a des choses, je n'aurais pas dû découvrir un peu ce qui se passait à l'intérieur, que c'était, à défaut d'être une secte, ce qui en est quand même loin, c'était relativement privé,
donc,
discret.
Quoique les stages dans la neige près de Séoul, avec des incantations en pleine nuit à hurler, etc., on peut se poser des questions. Je ne vous ai pas interrogé là-dessus, il faudra découvrir le livre, mais vous ne risquez pas de procès ?
Non, je pense pas. Ça a été traité en amont, mais ça aurait pu si ça n'avait pas été traité en amont avec quelques corrections qui ont été apportées par les Coréens au livre. Mais en fait, des corrections presque de forme, pas sur le fond, parce que le fond fait partie de leur vie.
Mais vous auriez fait ce livre-là sur une grande entreprise française, immédiatement vous risquiez le procès, non ? Qu'est-ce qui fait que, paradoxalement, alors que les Coréens aiment bien que tout soit sous contrôle, qu'on puisse écrire un tel livre ?
En fait, je l'ai écrit en quittant le groupe LG quelques semaines après, et c'était une sorte de mettre un terme à ce que j'appelle une expérience professionnelle extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire et dont j'avais besoin pour des raisons formidables, parce que j'y ai également beaucoup appris et passé des moments formidables, mais j'ai beaucoup souffert entre guillemets à certains moments et passé des moments difficiles. Je pensais que ça méritait d'être traité, et donc quand je l'ai, ça m'a fait, entre guillemets, c'était une sorte d'exutoire et de point terminal à une période de 8 ans qui sera sans doute professionnellement la plus importante de ma vie. Et après, effectivement, quand il a sorti, la réaction des Coréens, pour revenir à votre question précédente, c'est à la fois beaucoup de fierté d'avoir trouvé quelqu'un qui ose dire ouvertement ce qui se passe, et beaucoup de peur et d'angoisse pour les mêmes raisons, et en disant de toute façon, si on a à se positionner, si on nous demande notre avis, on dira que si il fallait surtout pas faire ça, que ça ne se fait pas, que c'est pas dans le mode de fonctionnement.
Quand vous avez quitté, avant d'aller chez les Coréens, quand vous avez quitté une grande entreprise japonaise, vous avez annoncé, je vais chez les Coréens, je vais chez LG, ils vous ont dit, mais tu es fou.
C'est
pas du tout comme chez nous.
Voilà, ça a été vraiment un choc pour eux. J'avais un patron japonais avec qui je m'entendais très bien et qui l'a pris comme un affront personnel, parce que c'était à la fois quitter une entreprise statutaire pour aller, entre guillemets, chez ce que les Japonais appellent des paysans.
C'est immense mépris des Japonais.
Et à très forte. Et si vous demandez à un Coréen du Sud combien de fois il est allé au Japon, vous trouverez difficilement, ils y vont jamais, alors que c'est à 800 km en avion. C'est vraiment, il y a une frontière très forte entre les deux.
Aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui, Eric Surdège? Est-ce qu'il vous reste, je veux dire, une aspiration au travail ou surtout une aspiration à l'oisiveté après ces 8 années?
Non, j'ai quand même beaucoup appris et je crois avoir je pense que les entreprises coréennes ont une vision souvent fantastique, une vision de l'impossible, ont un contrôle de l'exécution qui est étonnant et très fiable. Je pense que la grande faiblesse, et pour rejoindre ce que disait Eric Bonnet, une des faiblesses, c'est qu'à un certain moment, par rapport au développement immense qu'ils ont pu avoir à l'international, leur grande faiblesse, c'est de ne pas savoir engager et impliquer les équipes locales. Et à un certain moment, les plus belles entreprises du monde ne peuvent pas fonctionner si elles n'ont pas l'engagement et le support des équipes locales.
Eric Surdège, votre expérience coréenne est à découvrir vraiment dans le détail. Ça s'appelle Ils sont fous, c'est coréen et c'est paru chez Kalman Lévy. Merci infiniment également à Eric Bidet, universitaire, Université du Mans, spécialiste de la Corée du Sud. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur le vieillissement dans les pays du Sud. Comment évolue la solidarité avec les personnes âgées dans votre pays ?